Parole de paix sur RCN. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Parole de paix sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, sur 90.7, et également on peut l'écouter dans le monde entier grâce à Internet sur le site rcn-radio.org. Voilà. Et également on peut nous retrouver sur les chaînes YouTube de RCN Nancy. Vous écoutez Parole de paix. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion face à un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures. Et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix offre un espace pour discuter, pour réfléchir ensemble aux conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur les conflits, les guerres, leur préparation, des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Parole de paix, c'est proposé par plusieurs organisations nancéennes autour des droits de l'homme, autour de des questions de causes justes. Dans Parole de paix, nous avons la Ligue des droits de l'homme, nous avons le SAF, le syndicat des avocats de France, nous avons, je l'ai dit dans le désordre, nous avons l'association France-Palestine Solidarité, nous avons le MOC, Mouvement de l'Objection de Conscience, et tout un Amnesty International, et j'en oublie plein. Aujourd'hui, sur Parole de paix, je suis avec Patrice, et parce que le sujet principal du jour sera la présentation du Printemps de la Palestine, un festival qui a lieu tous les ans depuis 14 ans, ou en tout cas c'est la 14e édition.
Oui, c'est un vieux festival déjà, ouais. On peut dire ça.
Donc on vous donnera tous les détails dans la partie dossier de cette émission. Donc la 14e édition du Printemps de la Palestine, qui se déroulera du 26 avril au 10 mai 2025.
Voilà les deux semaines qui viennent. Voilà. Donc on aura largement de quoi s'occuper avec des choses très intéressantes.
Très bien. Et comme d'habitude, on commence par des brèves. Alors, pour les brèves, c'est bien moi qui commence. Donc je vais vous parler tout d'abord de l'appel des villes pour l'interdiction des armes nucléaires. Alors, le MOC, dont je fais partie, Mouvement de l'Objection de Conscience, est dans plusieurs collectifs, mais notamment dans un, aux côtés d'une association qui s'appelle ICAN et ICAN France. Alors, ICAN, ça veut dire...
En anglais.
C'est en anglais, c'est une campagne internationale pour l'interdiction des armes nucléaires. Cette association internationale ICAN a reçu le prix Nobel de la paix en 2017 parce que l'ONU depuis longtemps dit qu'il faut qu'on aille dans la désescalade et même dans arriver à l'interdiction des armes nucléaires, même si dans nos esprits, y compris le mien, on pense ça très utopique. Mais rappelons-nous que les armes chimiques ont été interdites, que les armes biochimiques ont été interdites, que les munitions, les mines antipersonnelles ont été interdites. D'accord, il y a encore des accros, d'accord, il y a encore du travail à faire, mais c'est possible. Alors, c'est pour ça que j'en appelle à vos imaginations. C'est possible de se dire qu'on pourra vivre dans un monde sans avoir au-dessus de la tête des armes nucléaires, des bombes nucléaires, qui seraient la catastrophe, qui seraient l'apocalypse pour l'humanité. Donc, avec ICAN France, donc l'association française d'ICAN, nous menons une campagne qui s'appelle Appel des villes en France, appel des villes et des collectivités territoriales pour soutenir le traité international, le traité d'interdiction des armes nucléaires.
Est-ce qu'on a de nombreuses villes qui participent à cette campagne ?
Oui, donc en 2017, ICAN a obtenu le prix Nobel, et sa proposition a été adopté par l'ONU, par 142 pays, contre quelques-uns, mais bien sûr ceux qui possèdent l'arme.
Toujours les mêmes.
Et donc après, il faut que des pays, les uns après les autres, ratifient ce traité de l'ONU. Pour l'instant, je crois qu'il y a quelque chose comme 60 ou 80 pays qui l'ont ratifié. Et donc, dans les pays qui n'ont pas ratifié, les associations pacifistes, les associations contre les armes nucléaires, dont par exemple Amnesty fait partie de la campagne, moins d'autres font partie de cette campagne très importante, il faut qu'on fasse pression, notamment nous en France, dans un pays nucléarisé qui veut pas lâcher la bombe nucléaire, pour arriver à ce que la France prenne position et à minima se rende aux réunions qui ont lieu tous les 3 ans à l'ONU pour au moins en parler. Mmh. Parce que la France refuse même d'en parler. Comme il y a eu plus de 50 États qui ont signé, maintenant c'est rentré dans le droit, mais pour les États signataires, bien sûr, c'est un peu comme la peine de mort. Les États-Unis n'ont jamais signé le traité contre la peine de mort pour leur permettre de continuer à tuer notamment des enfants. Ils n'ont pas non plus signé la déclaration, le traité pour les droits des enfants. Donc je reviens sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, et la campagne que nous menons maintenant depuis au moins 2 ans, c'est d'aller chercher des villes qui signent, qui disent « moi, maire de cette ville, de la ville X, je déclare ma ville, j'en réfère à mon conseil municipal, nous déclarons notre ville favorable au traité d'interdiction des armes nucléaires ». Cette campagne, on la mène doucement. Et en Meurthe-et-Moselle, pour répondre à tes questions, Patrice, en Meurthe-et-Moselle, trois villes ont signé. La première ville, c'était Vendeuvre. Qui est signataire du traité d'interdiction des armes nucléaires. La deuxième ville, c'était Tomblaine, la ville de Tomblaine. La troisième ville, c'était Essé-les-Nancy, donc des villes autour de Nancy.
Et en ce qui concerne la municipalité même de Nancy, donc elle a donné une réponse à cette
demande. Non, d'autres villes, certaines villes de droite, certaines villes ne daignent pas non plus nous répondre, mais en ce printemps 2025, ça y est, on s'est mis, nous, à prendre notre petite voiture et aller faire le tour de certaines municipalités qui ont réagi très positivement à cette proposition. Le 17 avril dernier, une petite délégation de 2 personnes s'est rendue à Mont-Saint-Martin, où le maire de Mont-Saint-Martin a signé. Alors, pour l'instant, tous les actes de protocole n'ont pas été faits. Il consulte son conseil municipal, mais lui-même a signé parce que ces maires qui signent disent la responsabilité d'un maire, c'est la sauvegarde de sa population. Et ces maires qui signent disent « Avec l'arme nucléaire, je ne peux rien garantir, je ne peux pas subvenir à la protection de la population. Et donc, je demande à ce que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. »
Oui, puis surtout, là, on parle beaucoup de nucléaire, par exemple, en ce moment, donc entre les États-Unis et l'Iran. Donc, c'est très vieux dossier.
Tout à fait.
Et sans mauvais jeu de mots, on va le faire tout de même, c'est un dossier véritablement explosif. On ne sait pas. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher.
Raison de plus, voilà. Effectivement, Patrice, tu as raison. On est avec aussi en France un gouvernement qui nous dit il faut être dans une économie de guerre. Des gens qui on sait que les industriels de l'armement ont besoin et aiment les guerres parce que ça leur fait faire énormément de bénéfices, énormément d'argent. La guerre, c'est surtout et aussi un marché financier. On peut le voir dans toutes les guerres, et y compris j'ai vu récemment pour la Palestine. Ce qui est derrière, c'est aussi des recherches de richesses dans le sous-sol. C'est aussi, on nous fait croire que toujours les guerres sont pour des belles raisons nobles. On va aller libérer les femmes en Afghanistan. On va aller toujours sur la liberté. C'est toujours des choses comme ça.
C'est les vieux discours, c'est la vieille doxa idéologique qu'on entend à chaque fois. C'est-à-dire, pour avoir une guerre, il faut déjà la préparer dans les esprits pour la rendre acceptable par la population.
Tout à fait.
Et ensuite, donc, faut avoir les moyens adéquats.
Ouais, il faut le consentement de la population. Tu as
raison. Ça ne marche pas.
Et donc, à longueur de télévision, on nous montre que les autres sont dangereux, que les autres sont des méchants, que les autres nous menacent, pour habituer petit à petit une population à consentir, à rien faire. S'il y a une déclaration de guerre, ça c'est vrai, c'est vieux comme le monde, cette pratique. Et derrière, c'est des industriels qui s'enrichissent. Chacune des grandes guerres ont fait la fortune. Je crois que c'est Anatole France qui disait on croit mourir pour des idées alors qu'on meurt pour des industriels.
Il n'avait pas tout à fait tort, on peut le dire.
Le petit point que je soulevais, c'était pour dire que la campagne sur les villes continue. Jarnie a été aussi contacté ces vacances le mois dernier. Je viens de dire Mont-Saint-Martin tout récemment, et il y a plusieurs autres rendez-vous qui sont donnés par des maires dans le Pays Haut. Voilà, on est monté aussi dans le Pays Haut. Donc auditrices, auditeurs, si vous connaissez des gens qui sont des élus municipaux, si cette question vous intéresse,
contactez votre maire, contactez voilà. Les élus, c'est ça le travail qu'il faut faire.
Voilà, tout à fait. Et donc voilà, merci à chacun de prendre sa part pour ce combat qui est important. Pour l'avenir de tout simplement de la planète, parce que même si on avait une planète bien belle, bien propre, si les bombes nucléaires se mettent à pleuvoir comme on a pu le voir à Hiroshima et Nagasaki, on sera bien fin.
Et on a très peu de sécurité en même temps. Si on imagine même une bombe classique qui tomberait sur une centrale nucléaire, par exemple Katnum. Imaginons les dégâts, par exemple. Ça serait monstrueux, et pas seulement sur le moment, mais par rapport à toutes les conséquences qu'on pourrait avoir par la suite. Et ces conséquences, c'est pas de semaine en semaine ou d'année en année, c'est sur des dizaines d'années. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment particulièrement lourd et pour lequel donc il faut réussir à trouver des solutions.
Tout à fait. Et comme tu le dis, une guerre même classique peut. Poutine a fait plusieurs fois des menaces sur en Ukraine. Il y a beaucoup de centrales nucléaires également, et c'est pour ça qu'il y a aussi des contre-proposition en disant qu'il fallait que les casques bleus de l'ONU protègent les centrales nucléaires. Mais c'est vrai que oui, là c'est des centrales nucléaires classiques qui peuvent devenir des bombes. Donc voilà, c'était sur ICANN. Je vous invite à aller retrouver le site ICANN France, ICANN, ICANN France tout attaché, ICANFRANCE.org. Et dans les actions, il y a les plaidoyers parlementaires, mais également il y a le dossier qui s'appelle Appel des villes et des collectivités territoriales pour soutenir le Tian. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui.
Voilà pour les brèves.
Ah non, j'en ai une deuxième. Ah non. Si, il faut aussi, amis auditeurs, amis auditrices, il faut renouer avec cette tradition d'aller défiler les 1er mai. Le 1er mai est une date importante pour les droits des travailleuses et des travailleurs et des privés d'emploi. Il faut, en famille, retrouver cette tradition. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, le 1er mai, c'est un jour férié, un jour des travailleurs, des travailleuses. Et ben, on se levait joyeux et de bonne humeur, et on allait, en famille, faire le traditionnel défilé.
Et il faut préciser que c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, ce n'est pas la fête du travail, tout comme le patronat l'intitulait à un moment donné.
Tout à fait.
C'est pas du tout la même logique.
Oui, nous, les fêtes populaires, elles sont pour les droits et pour les luttes pour les droits, comme le 8 mars, c'est pour les luttes et droits des femmes, c'est pas pour la journée de la femme, à qui on va apporter un bouquet de fleurs et un appareil électroménager comme cadeau. Non, c'est pas ça. Ces jours-là, le 8 mars et là, c'est le 1er mai prochainement, donc je vous invite toutes et tous à venir joyeusement dans les rues de Nancy, notamment. À Nancy, le départ aura lieu à 10h de la place Dombasle. La place Dombasle, vous voyez, c'est à côté du lycée Poincaré.
Oui, oui.
C'est pas loin du cours Léopold. Ça s'appelle la place Dombasle.
Devant la caisse d'épargne. On trouve très facilement.
Tu as raison, il y a un grand bâtiment de caisse d'épargne. Donc c'est 10h place Dombasle à Nancy. Venez toutes, venez tous en famille, joyeux, ce 1er mai 2025, place Dombasle à 10h. Et le défilé arrivera autour du parc Charles III. Le parc Charles III, il se situe dans le bas de la ville.
C'est près de la rue Saint-Nicolas. Quoi. Ouais. En fait, c'est une rue qui est parallèle à la rue Saint-Nicolas. Ouais. Il faut faire un peu attention lorsqu'on y rentre, parce que l'entrée est discrète, mais c'est un très joli parc. Ouais. Et l'année dernière, l'association France Palestine et d'autres associations y étaient. On tenait un stand. Et ça a été vraiment un des rares moments de bonheur et de légèreté qu'on a eu. Ça a duré quelques heures, mais rien que le fait d'être avec des gens qui partagent les mêmes idées, qui sont des humanistes, qui sont là pour essayer de faire avancer les choses, rien que ça vous donne du baume au cœur. Donc si vous désespérez devant vos écrans avec les mauvaises nouvelles du monde, participez à la manifestation. On a de la chaleur humaine, oui. Déjà d'une part, et l'après-midi, donc, se balader dans le parc, aller aux différents stands, boire une bière, manger une merguez, parler de la misère du monde et aussi des solutions qu'on propose aussi, ça fait aussi partie de ça. C'est un acte citoyen, c'est un acte utile et agréable.
Oui, donc dans ce parc Charles III, comme l'an dernier, Patrice, il y a une fête proposée au départ par l'Union Locale CGT, mais qui est vraiment une fête joyeuse, avec plein de stands pour manger, pour discuter, pour... écoute, il y a aussi des groupes de musique qui jouent. Donc le parc Charles III, rue des Fabriques à Nancy, ça sera de midi, cette fête aura lieu de midi à 17h, toujours ce 1er mai.
Venez nombreux.
et nombreuses. Très bien. Une dernière brève, Patrice, un peu d'actualité et qui est en lien avec notre dossier du jour, qui va nous parler de la Palestine et du conflit israélo-palestinien ou même plutôt du massacre des Palestiniens par Israël en ce moment, ce qui est tout à fait triste, dommageable, et la séquence est très très douloureuse en France, y compris par des attitudes des uns et des autres qui sont tout à fait condamnables. Pour moi, allez, je vais dire le mot. Donc effectivement, depuis 75 ans, la Palestine est occupée et martyrisée. Des gens sont tués depuis 1948.
Oui.
Et depuis 1948. Et il y a eu le massacre qu'on a connu le 7 octobre 2023. C'est que tout le monde a condamné, mais ça a été l'occasion pour l'État d'extrême droite de Benjamin Netanyahou de commencer un vrai génocide après une politique d'apartheid. Et donc de grandes organisations internationales condamnent. Benjamin Netanyahou et un de ses ministres a été condamné par la Cour pénale internationale. Normalement, il ne devrait pas avoir le droit de sortir son pays sans se faire arrêter. Également, un ou deux dirigeants du Hamas ont également été condamnés par la Cour pénale internationale.
Ils sont morts à l'heure actuelle.
Ouais, voilà. Ils ont été
éliminés par Israël.
Donc, comme ils ont été éliminés, ils ne passeront pas en procès. Et autour de ça, la politique française est assez violente sur cette question-là, notamment à l'Assemblée nationale, où une partie des organisations politiques sont traitées d'antisémitisme. Ça, on en a déjà parlé, et on en reparlera encore parce que c'est vraiment grave de dévoyer des mots, parce que maintenant ça veut plus rien dire. Les gens qui sont antisémites, comme l'extrême droite française l'a toujours été, notamment ses héritiers qui sont le Rassemblement National, et ils sont repeints aujourd'hui en défenseurs des Juifs de France. Et notamment, on a appris qu'en fin mars de cette année, il y a Jordan Bardella qui s'est rendu... Jordan Bardella,
que tout le monde connaît, on va en parler d'ailleurs.
Numéro 1 du parti d'extrême droite raciste, le RN, s'est rendu en Israël. Alors pourquoi ? Alors Patrice, je te demande, toi qui es membre de l'AFPS, Association de Française
Oh. L'association France-Palestine Solidarité.
Voilà, l'association France-Palestine Solidarité, la FPS qui a des groupes dans plein de villes de France et notamment à Nancy. Alors toi, Patrice de la FPS, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi la visite de Jordan Bardella en Israël, pourquoi il a fait cette visite-là et en quoi c'est surprenant?
Voilà, alors donc cette visite a eu lieu le 26 et le 27 mars. Il y avait deux objectifs à la visite de Jordan Bardella à Tel Aviv. Donc la première, c'était l'invitation, donc accrochez-vous bien, à une conférence sur l'antisémitisme. Et la deuxième chose, donc, c'est la visite du mémorial de Yad Vashem. On retrouve les noms des 6 millions de Juifs qui ont été donc tués par le génocide nazi. Alors, donc Jordan Bardella, il a été pendant quelques jours l'hôte officiel du gouvernement israélien. Il a été accueilli comme un ministre. Il a surtout été exposé comme un butin de guerre et soumis au parcours initiatique auquel seuls deux chefs d'État ont refusé de sacrifier. Donc, la conférence et le mémorial, c'était Lula et Mandela. Et Israël a déroulé véritablement le tapis rouge en l'honneur du successeur de Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est peut-être utile de rappeler aussi un certain nombre donc de citations de Jean-Marie Le Pen. Il parlait par exemple de Durafour crématoire. Il en a été puni par la justice. Il parle aussi par exemple des chambres à gaz qui sont un détail de l'histoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quelqu'un comme Jordan Bardella, c'est pas seulement le président d'un parti qui a été fondé par les Le Pen, il est devenu...
Et fondé par des SS. Et
oui, par des SS, des collaborateurs, des néo-nazis, enfin, le pire de l'extrême droite qu'on connaît. Hein. Et Bardella est devenu un vrai membre de la famille Le Pen, et il est venu, donc, flanqué de la petite fille du menhir, comme on l'appelle le Rassemblement National, donc Marion Maréchal Le Pen. C'est elle qui disait à ses obsèques qu'elle s'était engagée, je cite, « à continuer son œuvre ». On voit la teneur de l'œuvre. L'œuvre de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que c'est? C'est une logorée réactionnaire. On a des allusions racistes, xénophobes et islamophobes. Malgré les apparences, et c'est ça qui est vraiment fondamental, ce n'est pas Marine Le Pen qui a fait un pas vers Israël, même s'il a essayé. C'est le gouvernement israélien qui, sous Netanyahou, a repris à son compte les idées et les pratiques du Front National.
D'accord. Ah, donc oui, ça c'est vraiment vraiment surprenant détestable. Mais il y a dans cette conférence en Israël pour combattre l'antisémitisme entre guillemets, entre grosses guillemets, parce que ils reçoivent des antisémites. Qui étaient les autres invités? Il y avait d'autres invités?
Ah oui, on avait que du beau monde là. Ah. Voilà, vous allez avoir le détail. Voilà, c'est le cercle des pays d'amis d'Israël. Alors en quoi consiste le cercle des pays amis d'Israël? C'est ceux qui partagent la même vision du monde. Ça se réduit en fait à une poignée de nations dont les gouvernants sont des populistes d'extrême droite qui remettent en cause l'état de droit, la séparation des pouvoirs, les libertés individuelles, la liberté de presse et le droit international. Quelques noms connus, par exemple, Jair Bolsonaro, donc l'ancien président brésilien,
ah oui,
le triste nommé Viktor Orban. Oui. Voilà, donc avec qui
de
il est
Hongrie.
De Hongrie. Javier Milei, donc c'est le président actuel d'Argentine, celui qui aime bien la tronçonneuse et les coupes franches dans les dépenses sociaux, et Donald Trump.
Donc, Trump aussi était invité?
Non, il n'était pas invité.
D'accord.
Mais Benjamin Netanyahou s'est de toute façon déplacé à la Maison-Blanche, donc
régulièrement.
Ils n'ont pas besoin de se déplacer là. Les amis d'Israël, finalement, qui sont-ils? Ce sont des dirigeants politiques qui s'offusquent que Marine Le Pen soit condamnée pour détournement de fonds publics, des gens qui bafouent la signature de leur pays en le sortant de la Cour pénale internationale de justice, et que c'est ce qu'a fait donc Viktor Orban, donc, lorsqu'il a accueilli Netanyahou sur son territoire national.
Alors qu'il est recherché par la justice CPI. Internationale,
oui.
Comme on l'a dit tout
et
à l'heure.
Et il y avait aussi différents représentants de partis d'extrême droite. Il y a le parti Vox, par exemple, espagnol. Du néo-franquisme anti-islam. Le parti, c'est l'équivalent, c'est le Fidesz hongrois, qui a l'initiative des camps de rétention pour les étrangers non européens et même du recours à des tirs à balles réelles contre les émigrés irréguliers. Et aussi le président du Paraguay, qui est l'héritier naturel du dictateur Stroessner.
Ouais, c'est une honte, c'est une honte aussi que nos médias français n'en parlent pas. Mais ils sont trop occupés à dérouler le tapis rouge devant l'extrême droite pour retrouver en France un pays qu'on devienne aussi d'extrême droite comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Patrice, pourquoi ce rassemblement des extrêmes droites en Israël en ce moment ? Qu'est-ce qui est derrière ?
Parce que le gouvernement israélien, à l'heure actuelle, donc, est le seul au monde à pratiquer, alors voilà, je vais être très, très, très précis, un antisémitisme d'État, avec pour cible les Arabes en général et les Palestiniens en particulier. Ça peut paraître curieux, je veux dire qu'Israël, qui prétend être le sanctuaire donc, des Juifs du monde, pratique l'antisémitisme, mais on peut le rappeler, les Arabes sont des sémites jusqu'à nouvel ordre. Les Arabes, comme les Juifs, comme beaucoup de gens de cette partie du monde, sont effectivement donc des sémites. Et pour cause donc de nombreux chercheurs, donc même des rabbins, ont démontré que les populations arabes de Palestine n'ont jamais quitté en fait la terre de leurs ancêtres et ils ont plus de chances d'être les descendants des Juifs contemporains du Christ que les Ashkénazes qui sont venus d'Europe.
Ah, oui.
Et les Arabes palestiniens, alors y compris ceux qui sont des citoyens israéliens, donc vraiment de seconde zone, sont victimes de traitements qui obéissent en fait aux mêmes règles que les nazis ont fait subir aux Juifs et qui sont fondées sur deux mots-clés, le mépris et la sous-humanisation. Parce qu'on leur refuse un tas de choses, on leur refuse l'exercice de leurs droits, on juge qu'ils ne méritent pas d'en avoir, y compris le droit d'avoir une patrie. Et subissent des sévices qui rappellent ceux qu'avaient endurés les Juifs du ghetto de Varsovie. Hein.
Oui.
Affamation, nettoyage ethnique à Gaza, exécution de gamins armés de cailloux en Cisjordanie, jets de détritus sur les maisons des Arabes par les colons juifs d'Hébron. La liste n'est pas finie, elle est très longue. Et on peut aussi rappeler qu'un ministre israélien avait qualifié les Gazaouis de bêtes et il avait indiqué qu'il fallait les traiter comme tels. Et cela rappelle donc d'autres propos de Jean-Marie Le Pen qui, en parlant donc des Roms, des gens du voyage, les qualifiait d'oiseaux vivants naturellement en vol. Mauvais jeu de mots entre le Rom qui essentiellement est un voleur, qui est défini comme tel, et donc les oiseaux de passage dans le ciel.
Donc c'est un rassemblement de toutes les personnes qui soutiennent l'action génocidaire du gouvernement israélien actuel. Ce n'est pas une question... Ils essayent d'en faire une question soit de religion, soit... Ils essayent de dévier partout. Et en fait, c'est un la réunion, la rencontre que tu nous présentes, c'est un rassemblement de tous ceux qui soutiennent de façon ostentatoire le génocide
et l'apartheid et le nettoyage ethnique. C'est-à-dire, eux n'utilisent pas les termes que nous, on utilise. Nous, ces termes-là, lorsqu'on les utilise, ça veut dire qu'ils sont définis par des lois internationales. Ils sont définis aussi donc, par les livres d'histoire. C'est ce qu'on
par
retrouve
l'ONU.
Dans les manuels, par l'ONU. Donc on n'invente rien. Et puis finalement, donc... comment les Gazaouis se débrouillent-ils ?
Bah oui,
voilà, c'est ça le problème qu'on peut se poser.
Parce que là, aujourd'hui, nous les humanistes, qui nous laissons pas avoir par les manœuvres grossières des médias, en France en tout cas, où tout le monde se fait traiter.
C'est une censure qui ne dit pas son nom.
Voilà, tout à fait. Et donc nous, et notamment avec la FPS, vous êtes au plus près d'un regard réel, si tant est. Le plus réel possible. On rappelle aussi qu'Israël tue systématiquement les journalistes pour qu'il n'y ait pas d'informations qui sortent. Ces choses-là qui sont gravissimes, ça ne nous empêche pas de continuer à les dénoncer tout en portant secours ou en tout cas en montrant parce que c'est affreux ce qui se passe pour les Gazaouis. Comment ils survivent dans ce monde actuellement ?
La situation est vraiment terrible, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on va rentrer un peu dans la comptabilité, hélas macabre. Voilà, on a 51 000 morts, je ne parle pas de ceux qui sont au moins c'est le minimum, c'est-à-dire c'est sous-estimé. Il faut au moins en rajouter 20 000 par rapport à ce qu'on va
peut-être
trouver.
Peut-être qu'on redit aux auditeurs que les morts qui sont comptés, même si les médias n'arrêtent pas de dire derrière... Par le ministère de la Santé du Hamas, pour nous faire peur, ils ne comptent que les corps qu'ils ont vus et identifiés.
Voilà, qu'ils ont... Donc,
pas tous ceux qui sont sous des gravats encore, pas tous ceux, pas, et donc les estimations sont beaucoup plus énormes. Il y a des scientifiques anglais qui dépassaient les centaines de mille dans leur prévision, plusieurs centaines de mille de Palestiniens, Palestiniennes, enfants, femmes tués. Mais donc on reste, nous, sur, de façon modeste, entre guillemets, c'est affreux, sur plus de 50 000 morts.
Oui, 50 000 morts, on a plus de 110 000 blessés à l'heure actuelle, et si on parle des blessés, il ne faut pas oublier de dire que quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, par exemple, quelle est la vie qui lui reste derrière, quoi. Et on ne parle pas, là c'est les blessés physiques, on ne parle pas des traumatismes psychologiques, c'est-à-dire on a tout de même affaire à une population de 2,2 millions ou 2,4 millions, millions de personnes, avec tout le traumatisme. Alors c'est vrai que le 7 octobre est un attentat terroriste, c'est vrai qu'il a, donc il a créé un véritable effroi en Israël, mais la réponse israélienne, d'abord, n'est pas une réponse proportionnée au niveau des lois de la guerre. Et le problème pour Israël n'est pas de régler leur compte, son compte au Hamas, mais c'est de régler son compte à l'ensemble de la population palestinienne. Donc, les Gazaouis ont vraiment donc beaucoup de mal à survivre. Hein, voilà, ils ne sont pas devenus des bêtes. Hein. Ils préfèrent leur patrie au mirage qu'on va leur promettre. Par contre, ils sont réduits à vivre comme des bêtes. Hein. Ils sont obligés de se battre pour se nourrir. On les fait marcher du nord au sud pour les épuiser. Ils ne peuvent pas échapper au bombardement israélien. Il est utile de rappeler que, par exemple, toutes les bombes qui sont tombées sur Gaza en 18 mois, c'est plus de deux fois les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki en équivalent. Donc, c'est une véritable... C'est terrible. Et à l'heure actuelle, donc, lorsqu'on va à Gaza, on meurt moins sous les bombes que de famine. C'est-à-dire, c'est vraiment une famine qui est totalement orchestrée, donc de façon... Donc, totalement méthodique. Hein. Et là, les Le Pen, les Netanyahou, toute l'extrême droite mondiale a une énorme part de responsabilité parce que tous ces gens-là, non seulement ils ont en commun d'être sous le coup d'accusations qui sont infamantes, de détournement, c'est-à-dire ne respectent même pas l'état de droit dans leur propre pays, mais ils partagent aussi la responsabilité d'avoir été accusés de contestation de crimes contre l'humanité, d'invitation à la haine raciale, de crimes contre l'humanité et d'utilisation de la famine comme méthode de guerre pour l'autre. Donc, pour conclure, on peut se vraiment poser la question, quelle devrait être, si les choses étaient un peu mieux faites, quelle devrait être la vocation d'Israël, hein ? La vocation d'Israël aurait dû être de faire de telle sorte que plus jamais ne se reproduisent les injustices qui ont été subies donc par son peuple. Mais le gouvernement israélien, finalement, il est devenu le compagnon de régimes racistes, xénophobes. Ces gens-là bafouent le droit international. Netanyahou est à la tête d'un État injuste qui pratique l'apartheid, un État néocolonialiste, impérialiste, qui s'appare des terres palestiniennes et fait reculer sans cesse ses frontières. Allez voir au Liban ou en Syrie, par exemple, comment l'impérialisme israélien se développe. Et un État, finalement, dont l'armée tue le plus grand nombre d'innocents civils. Parce que dire tout de même que tous les Gazaouis sont coupables, un enfant de 3 ans, quelle est sa part de responsabilité là-dedans? Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on m'amène une réponse, s'il n'y en a pas, de toute façon. Et c'est un État dont la police secrète est responsable de la plupart des assassinats politiques qui sont commis dans le monde. Voilà. Et une petite devinette pour conclure. Rassemblement national, Israël, droits de l'homme. Cherchez l'intrus.
Ah oui, 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 oui. Une petite note d'humour, mais c'est vrai que c'est terrifiant. Et d'où on invite les auditeurs, les auditrices à prendre la parole, à réfléchir et à se dire que c'est impossible de laisser le peuple palestinien comme ça, de laisser se perpétrer un génocide, même s'il y a des menaces de se faire traiter d'antisémite à longueur de temps. Je rappellerai une phrase d'une association française qui s'appelle l'UJFP, Union juive française pour la paix, qui dit: dénoncer un génocide n'est pas de l'antisémitisme, c'est un devoir. Et cette phrase me parle. Oui, c'est important. Et donc, ça va faire la transition avec.
Oui, oui. Vas-y, Patrice. Voilà, et je terminerai juste une dernière chose. Voilà, ça revient à ce que George Orwell, dans son livre 1984, appelait la novlangue. Donc, si vous avez un peu de temps, indépendamment du fait que, d'un point de vue littéraire, c'est un chef-d'œuvre, le contenu est aussi intéressant que la forme. Et ce contenu, tout ce que Orwell dit, cette novlangue, c'est-à-dire
transforme les mots.
C'est-à-dire des mots à qui on fait dire, lorsqu'on parle de paix, en fait, on parle de guerre. C'est à l'heure actuelle tout ce qui est utilisé par l'extrême droite. Donc, relire ce roman-là, en même temps, c'est une pause qui est vraiment particulièrement utile pour se décrasser l'esprit, essayer d'avoir de la lucidité et de voir un peu comment les choses fonctionnent.
Et si vous avez envie de rejoindre la FPS, on peut envoyer des questions, ou faut les trouver lors des manifestations que vous faites régulièrement, et on va les retrouver sur une grande période du printemps de la Passéline, oui, oui, dont on va parler. Et je vous redonne l'adresse mail de la FPS, c'est AFPS Lorsud, LORSUD, @orange.fr. Il y a aussi une page Facebook, il doit y avoir d'autres réseaux sociaux.
Instagram aussi, tout ça, vous Instagram. Pouvez le trouver, pas de problème.
Eh bien, Patrice, là, c'était dur et lourd, cette dernière partie.
On va rentrer dans le léger, heureusement.
Voilà, un printemps de la Palestine qui nous sert à découvrir la culture palestinienne, qui nous sert à discuter tranquillement, même si on sait que derrière, les nuages sont très noirs. On fait une petite pause musicale ?
Oui, volontiers. Donc, une première pause musicale avec un des groupes qui est programmé pour le printemps de la Palestine, dont on reparlera plus tard. Le groupe s'appelle Yalil et il est composé majoritairement donc de Syriens. Donc, ce sont des gens qui sont à Nancy, qui sont à Metz, qui sont à Thionville et qui font donc vivre leur identité par la musique. Et là, nous allons avoir le plaisir donc d'écouter un morceau qui s'appelle L'El Garaou. Je ne vous garantis pas l'accent.
Midi, parole de paix sur RCN. Bonjour, vous écoutez Parole de Paix, comme la virgule vient de le dire. Mais il paraît qu'il ne faut pas le redire juste après, ça fait ringard. Donc Parole de Paix cette semaine nous parle du printemps de la Palestine, un festival qui a lieu tous les ans depuis 14 ans maintenant, sur Nancy au départ, et qui de plus en plus s'élargit dans les villes avoisinantes et même dans le département des Vosges. Tu vas nous donner ces détails. Alors Patrice, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire qu'est-ce que c'est le printemps de la Palestine, pourquoi il est, peut-être pas pourquoi il était créé, mais quel est l'esprit général de ce printemps de la Palestine que la FPS porte sur Nancy et la région depuis longtemps, et avec de nombreux partenaires d'ailleurs, tu pourras le dire aussi.
Oui, oui. Alors donc, pourquoi c'est le plus vieux petit festival qui existe sur Nancy, quoi. Donc ça, il faut le savoir. Donc il draine à peu près... Alors il a lieu sur l'agglomération nancéenne, il a lieu dans le Toulois, il a lieu dans les Vosges, et il draine à peu près quelque chose comme 2500, 3000 personnes, donc en termes de jauge, quoi. Alors pourquoi ce festival ? Parce qu'il y a 15 ans, donc avec un ami de l'association... Donc, on sortait d'une conférence et on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose sur la Palestine et que les Palestiniens, la Palestine, l'histoire de la Palestine, c'était surtout donc de la méconnaissance, quoi.
L'histoire, la culture.
La culture.
Avec un grand C.
Voilà, la culture véritablement sous toutes ses formes. Donc là, l'objectif, c'était, on parlait de la novlangue auparavant, et de 1984, c'est de redonner leur poids aux mots et de montrer que finalement... Si on est palestinien, ça ne veut pas dire palestinien égale arabe, égale terroriste, égale islamiste, c'est-à-dire toutes les bêtises qu'on entend habituellement, donc les généralités sur le peuple palestinien. Et là, l'objectif, c'était de casser ce stéréotype et de donner donc un autre visage, un visage déjà donc beaucoup plus humain, puis beaucoup plus précis des Palestiniens et de la Palestine, parce que notre festival, comme les Palestiniens, il a à la fois donc, il a un pied dans la tradition, dans l'histoire, dans la très très longue et très vieille histoire des Palestiniens, et il a en même temps donc un pied dans le futur. Donc l'objectif, c'est effectivement de casser tous ces stéréotypes-là et de montrer que c'est un peuple comme les autres, et que si on laisse ce peuple vivre sa vie, il a un tas de talents à développer et il ne demande que ça de les développer. Sauf que, vu les misères que lui fait Israël, on n'en est pas là donc, du tout à l'heure actuelle. Alors, et donc, ce festival se déroule à la fois sur l'agglomération de Nancy, donc sur Nancy, sur Tomblaine, sur Vendeuvre, à Toul aussi, et aussi dans des Vosges, dans trois villes, donc à Gérardmer, à Saint-Dié et à Épinal. Alors, ce n'est pas seulement l'AFPS qui a travaillé à l'organisation de cette 14e édition, mais c'est un collectif d'associations avec qui on travaille, en fait, depuis une quinzaine d'années. Hein. Voilà, on a l'Association des travailleurs maghrébins de France, on a le Mouvement pour une alternative non-violente, le CLID, qui est le centre, donc, lorrain d'information pour le développement, le CCFD, Terre solidaire, l'UJFP dont on a parlé tout aussi, donc l'Union des Juifs Français donc pour la guerre, Amnesty International, groupe de Nancy et groupe des Vosges
et
aussi.
Groupe des Vosges, là, oui, bien voilà, sûr. Aussi, la Ligue des droits de l'homme,
La Ligue des droits de l'homme aussi, qu'on avait.
Terre solidaire, tu l'as dit. Voilà. Le mouvement de la paix. Oui, il y a. Vous avez. Alors, je ne sais pas si la caméra peut montrer, mais il y a un superbe programme en papier glacé il y a même deux versions, une version autour de Nancy, Meurthe-et-Moselle, et vous avez même édité cette année une version pour les Vosges. Voilà. Ça se ressemble, mais à l'intérieur, on voit les deux programmes.
Voilà, et c'est un programme en fait qui est vraiment donc très très complet. Et tout le travail qu'on a fait sur les Vosges, c'est un travail qu'on fait depuis 5 ans autour de l'AFPS pour fédérer un collectif. Et déjà l'année dernière, donc les Vosges avaient fait un travail vraiment formidable. Cette année, ils ont une excellente programmation et tout ça. L'objectif, c'était vraiment d'institutionnaliser ces pratiques et ce festival et d'avoir des rendez-vous donc réguliers
dans
les Vosges. Et la culture, c'est une arme formidable et c'est une arme pacifique et c'est une arme qui fait tomber les murs et qui ne crée pas des murs, justement. Ouais. Donc ça, c'est aussi l'objectif du festival.
Fait tomber les préjugés, ou tu as dit tout à l'heure le mot, redonne des visages aux gens, et c'est vrai que c'est plus facile de massacrer des peuples ou des gens quand on ne donne pas de visage, ou qu'on fait croire qu'il n'y a pas de culture, ou qu'ils n'existent pas, on les invisibilise, alors que là, c'est des moments agréables.
On incarne, c'est-à-dire au sens strict, la culture est incarnée.
Tout à fait, ouais. Moi, on a déjà participé à de nombreuses fois. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire tout de suite qu'il y a une inauguration qui a toujours lieu d'habitude, tu me confirmes ou tu m'infirmes, qui a toujours lieu d'habitude sur la place Maginot, un samedi, où les gens peuvent passer, regarder un petit peu, écouter, voir différents stands pour se faire une idée, reprendre le programme et après venir tranquillement sur les moments de ce festival qui intéresse le plus la famille qui vient regarder.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du festival. Bah, comme tous les ans, on fait ça depuis 15 ans, elle se fait toujours place Maginot.
Un samedi.
Donc c'est samedi qui vient, donc samedi 26 avril. On démarre à 14h, on termine à 18h. On a différents stands, hein. Voilà, calligraphie, tatouage, aîné, un stand enfant, un stand presse. Donc un stand aussi le Philistin. Donc le Philistin, c'est un Palestinien donc, qui est spécialisé dans les produits palestiniens, qui va venir donc, pour vendre ses produits. Ça va de l'huile d'olive en passant par des bijoux, par différentes choses. Et on aura donc de 14h à 18h bah, de la danse, de la musique en tout genre. On aura la chorale des 100 noms, du hip-hop, un duo avec violon, percussion marocaine. On aura aussi le dabké. Alors le dabké, c'est fondamental parce que c'est la danse traditionnelle palestinienne. Pas seulement palestinienne, vous la retrouvez aussi par exemple au Liban. Donc, venez voir. Ouais. Alors, c'est vraiment très physique. Il faut vraiment voir ce que ça donne. On danse 3-4 minutes, mais en général, on est assez épuisé après. Ouais. Et cette année, ça sera une année exceptionnelle parce qu'à 15h30, on aura l'inauguration du festival par Madame Ala Abou Assira, qui est l'ambassadrice de France en Palestine.
Ambassadrice de France en Palestine,
non,
sera annoncée.
Ambassadrice de Palestine en France,
voilà. Pardon, oui. Donc l'ambassadrice de Palestine en France sera à Nancy au moment de l'inauguration, voilà. Place Maginot. Elle vient à 15h ou
15h30. Vous voulez la voir, le mieux c'est d'être là à partir de 15h30 parce qu'auparavant. Elle sera donc, c'est Monsieur Stéphane Ablot, donc elle sera reçue à Vendeuvre. Et après, elle sera reçue normalement, protocole oblige, donc par la mairie de Nancy.
D'accord.
Voilà, mais elle prendra la parole et puis, à mon avis, elle aura quelque chose à dire aussi sur la culture palestinienne.
Donc, c'est un rendez-vous important, auditeurs, auditrices. Notez-le, sauve au calepin. C'est samedi 26 avril. Ça commence à 14h jusqu'à 18h sur la place Maginot à Nancy. On peut venir en famille, écouter de la musique, voir la calligraphie, plein de choses.
Manger une petite pâtisserie, prendre un thé. On aura aussi de la soupe de lentilles comme on fait chaque année, qui est excellente. Hein. Voilà, mais en général, c'est vraiment un mauvais. Moi, le souvenir que j'en ai, par exemple, de l'année dernière avec Gaza, les massacres et tout ça, comme le 1er mai, ça a été quasiment deux moments légers et aériens. Alors, on souhaite évidemment qu'il n'y ait pas trop de nuages et puis que le temps s'y prête, mais c'est un rendez-vous qui est vraiment très, très chaleureux et ça permet, on va utiliser une métaphore automobile, de recharger un peu les batteries et de se redonner du courage aussi ou de l'espoir.
Donc venez toutes et tous en famille, invitez vos amis, c'est un moment vraiment, vraiment très chouette. Et cette année, exceptionnellement, à partir de 15h30, il y aura l'ambassadrice de Palestine en France qui sera à cette inauguration aussi, après être passée, comme tu l'as dit, à Vendeuvre et à Nancy. Voilà, un beau démarrage.
Ah oui, ça fait plaisir, hein. ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà, parce que ça veut dire qu'un festival, lorsque vous le montez, il faut savoir qu'il y a 9 mois de travail à peu près pour le monter, puis c'est un gros festival. Hein. Il y a d'autres festivals en France qui s'appellent le Printemps de la Palestine, mais c'est souvent sur un week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc on est quasiment le plus gros festival pour la Palestine au niveau du territoire national.
Donc d'accord.
C'est tout même pas mal.
Parce que c'est du 26 avril, on rappelle, au 10 mai 2025. Eh ben, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail d'autres moments? Sans doute, on va en oublier quelques-uns. Je rappelle qu'on peut redemander le programme si on envoie un mail à afpslorsud@orange.fr, sur la page Facebook. Et en venant le samedi 26, place
on
Marginaux,
peut avoir le programme.
Voilà, et c'est et il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes, Patrice. Alors, par quoi tu commences? Il y a des expositions, du cinéma, il y a des débats. Vas-y, par quoi tu veux commencer? Alors, il y a de la poésie, je vois.
Oui, il y a aussi de la poésie. Alors, je voudrais surtout parler donc de trois soirées, des soirées festives. Et il y en aura une qui aura lieu donc le samedi 3 mai. À partir de 20h à la salle Yves Coppels. Et la soirée-là, elle est doublement intéressante parce que Yalil, les auditeurs ont eu l'occasion de l'entendre auparavant, le groupe Yalil va reprendre un certain nombre donc, de standards donc palestiniens, libanais, enfin tous les standards de la musique populaire du Proche-Orient. Ça sera pour vraiment donc, le plat de résistance.
Donc ça sera le samedi 3 mai, le samedi suivant, l'inauguration. Donc le samedi 3 mai, et c'est à Vendeuvre, salle Yves Coppens, à partir de
20h.
Hein. À partir de 20h.
Et donc Yaliv va à la fois faire cette partie de concert, de standards musicaux. Et la première partie sera consacrée à Mahmoud Darwish, qui est le grand poète palestinien, avec une lecture musicale, c'est-à-dire les textes qui vont être dits, qui vont être récités, et avec un accompagnement musical. Et là, l'entrée, on a vraiment essayé de réduire les prix au minimum, donc ça va être 5 euros. Mais lorsqu'on a terminé tout ça, un buffet gratuit va être offert avec des pâtisseries, donc du thé. Voilà, donc un verre de quelque chose pour les gens qui apprécient. Et à partir de là, donc ça sera une autre façon de développer la convivialité, puis de parler de la Palestine et puis de choses qui nous intéressent.
Et donc c'est à Vendeuvre, c'est dans le quartier Vendest. Ça s'appelle la salle Yves Coppens. Et c'est il y a une modique participation de 5 euros parce qu'il y a quand même beaucoup de frais, j'imagine. On peut voir le groupe de musique Yalil qu'on a entendu, qu'on peut retrouver sur Internet et qu'on a entendu si vous avez écouté l'émission en direct. Donc, comme tu le dis, de la musique, de la poésie et à la fin, un petit buffet partagé avec le public.
Voilà.
5 euros.
Donc ça, c'est le premier rendez-vous.
Samedi 3 mai.
Voilà. Un deuxième rendez-vous, cette fois, sera lieu donc le vendredi 9 mai à 20h à la MJC Lillebonne. Donc
à Nancy.
À Nancy, toujours à Nancy, hein, donc au centre-ville. Hein. Et c'est une soirée donc, qui a été baptisée Dabke Fever, la fièvre du Dabke. Alors pourquoi la fièvre du Dabke? Alors pourquoi Fever? Parce que donc c'est la fameuse fièvre du samedi soir. Voilà, donc ça c'est
pour les anciens.
Voilà, un petit côté humoristique. Et là on aura deux choses en fait. Ça va être une soirée DJ, donc avec donc majoritairement donc destinée aux étudiants, mais tout le monde peut y aller. Hein, de toute façon, c'est complètement ouvert. Moi j'y serai en tout cas, et puis on sera un certain nombre. Et donc ça va être un mélange à la fois donc de Dabke, c'est-à-dire on a fait venir de Paris des danseurs et des danseuses de Dabke qui vont intervenir à 4 ou 5 reprises. Et autrement, donc ça va être une soirée dansante aussi avec de la musique électronique, avec aussi de la restauration. On pourra boire, on pourra manger, donc goûter différents produits. Hein. Donc une soirée festive donc pour le vendredi 9 mai.
Donc musique, DJ, beats, etc. Et des danseurs qui seront présents. Et tu disais aussi, ou je ne sais pas si tu l'as dit, mais aussi possibilité de manger et de boire des petites pâtisseries. Si, c'est ça, j'ai bien lu.
Donc
à
tout
boire
est prévu là.
D'accord.
En ce qui concerne les pâtisseries, c'est simple. Pour la durée du festival, on doit en avoir 1300 ou 1500 qui vont faire les 2 semaines du festival.
D'accord.
Donc parfois, ça sera payant, mais disons, ça sera vraiment symbolique, ça nous permet de ne pas perdre l'argent, mais on ne fait aucun bénéfice dessus.
Oui.
Et puis d'autres fois, comme la première soirée à Yves Coppens, là, c'est nous qui offrons, ça fait partie de l'entrée aussi. Hein.
D'accord. Donc, cette soirée Dabke Fever, dont on vient parler, danse et musique électro, et oui, avec les danseurs de Dabke, c'est, tu as dit, à Nancy, MJC Lillebonne, en vieille ville, pas loin de la place Saint-Èvre. MJC Lillebonne, vendredi 9 mai, de 20h à 23h.
Oui, et là aussi la participation, c'est 5 euros, mais c'est vraiment basique.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire,
c'est aussi du soutien.
On ne recherche pas forcément le bénéfice. Les rares fois où on en fait, ben, tant mieux, parce que donc cet argent-là va être réinvesti dans un prochain festival. Mais l'objectif, donc, financièrement parlant, c'est vraiment d'arriver à une opération neutre, équilibrée,
bien sûr,
pour ne pas avoir
c'est
de problème.
Ce n'est pas une opération financière. Ça, on a bien compris l'esprit que soutient la FPS. Et est-ce qu'il y a une autre soirée musicale ou,
Oui, oui. Alors, il y a la dernière soirée musicale. Elle aura lieu le samedi 10 mai et c'est à la salle Jean Jaurès à Tomblaine. Alors, c'est plus qu'une soirée parce qu'en fait, on va démarrer à partir de 17h. Et 17h, va y avoir la projection d'un film. Voilà, je le représenterai après, qui s'appelle Le piège de Houda. Donc, c'est un film policier palestinien. On va démarrer à 17h. Il y aura un petit débat, comme on fait d'habitude. À partir de 19h, on a un buffet oriental. Donc, on va avoir la possibilité d'acheter puis de consommer sur place des assiettes froides, donc avec du hummus, enfin, voilà, la cuisine traditionnelle.
De Palestine.
Voilà. Et à 20h30, on terminera avec le concert de musique palestinienne et orientale avec l'ensemble Chakam. C'est un trio avec à sa tête donc Christine Zayed. Donc, comme les autres années, on essaye de terminer le festival en offrant à la fois de la gastronomie, en offrant à la fois de la musique et en offrant à la fois du cinéma. Et cet espace, donc Jean Jaurès à Tomblaine, c'est un espace dans lequel on travaille depuis des années, et qui est un espace formidable parce que d'abord, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. On se débrouille pour avoir une belle décoration donc à l'image de la Palestine. Et en même temps, c'est comme un petit village. Vous avez l'impression, vous arrivez, d'être sur la place du village et puis vous passez un moment sympa, quoi. C'est un peu comme une fête foraine. Et lorsque vous partez, vous en gardez véritablement un bon souvenir.
Et donc, cet événement, c'est le samedi 10 mai, voilà, à Tomblaine. À partir de 17h, le film commence. Donc, venez quand même un petit quart d'heure, 20 minutes avant. 17h jusqu'à au bout de la nuit. Parce qu'il y a 17h jusqu'à 19h, il y a un buffet. Et à partir de 20h30, comme tu viens de le dire, un concert de musique palestinienne avec Christine Zayed et l'ensemble Chakam. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut rapidement, là, je crois qu'il faut qu'on avance, est-ce qu'on peut nous parler des moments de débat, des moments de... Parce que je vois en feuilletant qu'il y a... je sais pas si je te mets tout dans le désordre,
voilà,
mais je vois qu'il y a une conférence de Sylvain Sipel qui est vraiment, à mon avis, à ne pas louper, qui aura lieu à la MJC Pichon le mardi 6 mai à 20h. Sylvain Sipel serait vraiment un spécialiste, quelqu'un qui est clair dans son discours, qui a une analyse vraiment... compréhensible par tout le monde, des situations politiques, notamment des situations politiques de guerre, sur des terrains de guerre. Et il est déjà venu à Nancy, je crois,
il y a quelques années.
Oui,
on l'a déjà fait venir donc deux fois pour des conférences. Et puis l'intérêt de Sylvain Sipel, c'est que c'est vraiment... Il est juif, déjà, d'une part. Il connaît très, très bien Israël aussi. Et de sa connaissance d'Israël, c'est vraiment une connaissance qui est particulièrement... fine. Donc, en général, lorsqu'on a une conférence, souvent le conférencier connaît mieux un peu ce qui se passe du côté de la Palestine que du côté d'Israël. Alors que là, on a vraiment la double vision. Mmh. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que cette double vision-là, elle permet aussi de renseigner, d'informer sur l'état de la société israélienne. Et puis, il faut savoir que tant qu'il n'y aura pas un changement donc fondamental au sein de la population des citoyens israéliens, il n'y aura pas de paix. Donc là aussi, il va nous amener donc des éléments de compréhension du dossier. Donc ça, c'est vraiment une très bonne conférence.
Mardi 6 mai, à la MJC Pichon à Nancy, je pense que c'est 20h, c'est ça, 20h. Très bien, oui. Donc ça, à ne pas louper au-dessus. Oh là là, il faut vraiment remplir nos agendas. Il y a des expositions, peut-être aussi rapidement, des expositions qu'on trouve dans quel lieu
Alors on aura, donc tous les années, on propose une nouvelle exposition. Donc la nouvelle exposition, cette année, ça s'appelle la Palestine au bout du pinceau. Et c'est une quinzaine de reproductions, on en a même un peu plus, on arrive à 19 à l'heure actuelle, donc de tableaux de peintres des camps de réfugiés palestiniens du Liban. Et donc chaque tableau, alors ce n'est pas le tableau lui-même, parce que ça aurait été vraiment, on n'avait pas les moyens de les faire venir, les assurances et tout ça. Par contre, c'est des reproductions qui sont vraiment tirées avec tous les pixels qu'il faut.
Ouais.
Et donc chaque tableau va se présenter avec le tableau donc, du peintre, avec une petite notice biographique, mais vraiment très, très brève, et avec aussi donc un extrait de poème et un texte d'introduction.
Et cette exposition, on peut la voir
Alors, toujours à l'espace Jean Jaurès, on peut la voir.
Hein, du 25 avril, c'est ça?
Voilà, à partir
du samedi 10 mai.
Voilà, enfin, là, ça sera un peu plus tard, parce qu'on ne pourra la mettre que lundi. Et si ça vous intéresse, avoir plus donc, d'éléments d'explication et tout ça, vous êtes cordialement invité au vernissage de l'exposition, qui aura lieu cette fois donc, le mardi 29, toujours à l'espace Jean Jaurès, à 18h. Ça sera le moment de s'informer, de se renseigner, et puis aussi d'apprécier donc, la qualité des peintures.
Il y a aussi une exposition à Toul.
Oui, alors il y a aussi une autre exposition à Toul qui s'appelle « L'enfance palestinienne ». C'est une expo qu'on avait faite l'année dernière. Et c'est une exposition, je propose vraiment aux gens du Toulois d'aller la voir parce qu'elle est magnifique. En fait, on a récupéré des dessins d'enfants de Gaza, mais avant le 7 octobre, déjà d'une part, c'est la moitié de l'expo, et on a récupéré des dessins d'enfants des camps de réfugiés palestiniens donc du sud Liban, et ça c'était après le 7 octobre. Donc on n'a récupéré que les dessins, et on avait demandé aussi des petits textes. Alors c'était des enfants, ça va de 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout ça, et avec la question qui leur a été posée, comment vous projetez-vous dans l'avenir? Comment vous voyez-vous? Et à partir de là, alors c'est des dessins qui sont naïfs, mais en termes d'émotion, lorsque vous voyez ça, c'est vraiment une exposition qui est... Ouais. Qui est magnifique. On n'en sort pas indemne, mais dans le bon sens du terme.
Et pour nos amis vosgiens ou ceux qui vont dans les Vosges, il y a aussi une exposition à Épinal au centre culturel rue Claude Gelée, Visage de la Palestine ottomane de 1880 à 1900. Il y a aussi, donc ça, c'est aussi du 26 avril au 11 mai. Il y a une exposition à Saint-Dié-des-Vosges, dans la salle Sadoul, rue quai Sadi Carnot. Il y a aussi une exposition. Où est-ce qu'elle est cette exposition ? À Neufchâteau, du 26 avril au 11 mai, les partenaires du CCFD Solidaire en Palestine-Israël. Et il y a également une exposition à Gérardmer, Gaza, l'enfance blessée. Donc tout ça, on va très très vite parce que nous, on est en retard. Désolé maintenant, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses encore à voir. Il y a aussi des films, des conférences débats à Nancy, c'est au Caméo.
Oui, au Caméo. Donc, alors, au Caméo, on va avoir deux films le lundi 28 avril à 20h15 au Caméo Commanderie. Le film de Rachid Macharaoui, From Ground Zero. Alors, très rapidement, ce film-là, en fait, c'est 22 courts-métrages. Alors, ça va du court-métrage qu'on prend avec un petit téléphone, donc jusqu'à des films d'animation et donc des films d'art et d'essai, des petits courts-métrages, 22, et c'est fait par les Gazaouis. Donc, c'est le cinéma Gazaoui, fait par les Gazaouis et vu de l'intérieur. Hein. Donc, ça serait une première. Le deuxième rendez-vous, c'est le lundi 5 mai, toujours à 20h15, au Caméo. C'est Innocence de Guy Davidi. Guy Davidi, c'est un réalisateur israélien. Et l'intérêt, c'est que ce film-là parle du bourrage de crâne et comment le bourrage de crâne, comment on arrive à faire du soldat et du soldat qui va aller donc tuer du Palestinien. Et dans certains cas, ça s'est soldé donc tout simplement par des suicides d'appelés. Donc c'est toute cette espèce de boue nauséabonde qu'il fait remonter. Et on a choisi ce deuxième film. Le premier film, Ground Zero, c'était pour montrer ce qui se passe. Et le second film, Innocence, c'était aussi pour amener des éléments d'explication, expliquer comment on peut amener à tuer quelqu'un qui n'a rien fait, quoi, en fait. Et un troisième film, donc, lors de la soirée à Jean Jaurès, c'est le piège de Houda. Et le piège de Houda, en fait, c'est un polar, parce que les Palestiniens ont un cinéma qui est vraiment très dynamique. Ouais. Il faut même du film fantastique. On a failli avoir un film fantastique. Bon, on ne pouvait pas tout programmer. Et enfin, donc, deux films à Toul au cinéma Citéa. The Teacher, qui est un très, très bon film aussi, qui était passé aussi au Festival du film arabe de Famec. Et No Other Land, que je vous conseille d'aller voir, si vous n'avez pas le temps, allez au moins voir No Other Land. Donc ça parle du vol des terres, des terres palestiniennes. Et c'est la lutte qui est menée à la fois donc par un juif israélien et par un palestinien contre l'antisionisme, mais dans le bon sens du terme.
À noter qu'il faut aller du côté du cinéma cité à Toul, et ces deux films dont tu viens de nous parler, The Teacher et No Other Land, sont programmés deux fois. Donc allez voir. Je propose dans la panique totale. Non, on aurait envie d'en parler encore pendant des heures, mais surtout on va venir au festival du printemps de la Palestine du 26 avril au 10 mai à Nancy. On va commencer par l'inauguration et s'informer. Venez.
C'est très sympathique, très familial, très convivial. C'est un moment de bonheur. Venez nombreux.
Et ben donc on va s'arrêter sur ces paroles. Merci Patrice, merci à Joris d'avoir fait la technique, et il va se débrouiller pour notre dépassement. Désolé, et à une prochaine émission de Paroles de Paix.